Bonjour à tous et à toutes, c'est reparti pour un nouveau numéro d'Esprit Sport. Nous allons passer une heure ensemble avec autour de moi une équipe type et un revenant. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Troisième défaite de la section paloise cette saison. Bonjour Coraline.
Mais quelle entame. Bonjour.
On a vraiment fait de si beaux lancements.
Hein. Exactement, tout à fait. Bonjour. Bonjour
ça
à tous.
Va.
Mais oula, vous avez descendu d'un étage là.
C'est la chaise qui est
descendue. Vous avez pris l'ascenseur quoi.
C'est ça.
Eh bien écoutez, ça va plutôt bien. Plutôt
le
très
match,
bien.
Non,
plutôt.
Non, ça va, ok. On s'est apaisé. Bah, écoute,
oui, exactement. Très exactement. Ouais, vous m'avez vu avant, donc oui.
Oui. il allait affronter les moins 3 dans l'antre des jaunards. Et oui, il est revenu vivant. Bonjour Corentin.
Je suis revenu, bonjour, je suis revenu gelé mais vivant, ouais.
Gelé mais vivant. C'est bon, 10 doigts, 10 orteils, le bout du nez, on est là.
Tout va bien, par contre il faisait pas moins 3 mais moins 5.
Oh punaise. Faut avoir envie de se passer un week-end à moins 5 degrés pour aller voir du rugby, surtout Clermont en plus. Victoire ou défaite de Clermont?
Victoire de Clermont.
Ah bah c'est bien, vous y êtes pas allé pour rien. Et puis c'est le retour de notre journaliste. Mais oui, vous savez, le passionné de ces rencontres de décembre entre les petites équipes de National ou de Fédéral. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Ah, alors ça fait un moment qu'on vous a pas écouté, Erwan. Comment allez-vous depuis ces 15 jours?
Mais ça va, mais je vois qu'à peine une semaine où je suis parti, ça y est, je manque déjà. Je suis si indispensable que ça?
Ah, la question se pose et ça sera pas la question du débat. Parce que oui, on va retrouver une nouvelle question qui mènera un débat dans cette émission. Après le tirage de l'Euro 2024, l'Autriche, les Pays-Bas et un barragiste, l'Euro 2024 commence-t-il bien pour les Bleus? Ah, ça c'est une question à laquelle nous essaierons de répondre dans quelques minutes. On va aussi commencer par les tops et les flops de ce week-end. À suivre également un entretien en face-à-face avec François Codine, qui pratique et enseigne un art depuis 23 ans, un art martial vietnamien qui est bien plus qu'un sport. On fait un petit peu d'histoire aussi dans cet entretien qui est aussi complet que passionnant. Rendez-vous dans quelques instants et puis on terminera évidemment avec un pronostic et une analyse de match qui aura lieu ce week-end. Est-ce que tout est bon pour vous, messieurs, dames?
C'est ok pour moi, en tout cas.
C'est parti.
C'est parti tout de suite avec l'information sportive de la région, avec Corinne Saint-Félix.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
Bon résultat pour le Toulouse Métropole Basket.
Oui, les Toulousaines retrouvent la première place du championnat en Ligue 2. Samedi, les Pionnières ont vaincu 75-64 Montbrisson, qui sont cinquièmes, en se défaisant de rivales à la course au titre. Elles retrouvent donc la tête d'un championnat très serré et sont à égalité de points avec Aulnoye.
Du bon et du moins bon pour le Toulouse Football Club.
En Ligue Europa, le TFC a reçu l'Union Saint-Gilloise, leader du championnat belge, au Stadium dans un affrontement pour la deuxième place du groupe. Ils ont contenu leur adversaire avec un nul 0-0. Le TEF prend la deuxième place et est garanti d'une qualification en cas de victoire contre l'ASK ou si Liverpool ne perd pas contre les Bruxellois. En revanche, hier à 15h en Ligue 1, les Violets ont encore perdu des points précieux en toute fin de période. Le FC Lorient, un concurrent direct au maintien, a égalisé dans le temps additionnel, résultat 1-1. Le dernier succès en Ligue 1 remonte à début octobre face au FC Metz avec un résultat de 3-0.
Défaite en Spike League des Spacers de Toulouse.
Pour la première fois en 7 rencontres, les volleyeurs de Toulouse ont chuté vendredi. Les Spacers, 5e ex-aequo avec Saint-Nazaire, ont été totalement maîtrisés par ces derniers dans le cadre de la 9e journée de championnat.
Du handball avec l'équipe du Phoenix de Toulouse aussi, qui n'a pas fait mieux.
En Star League, le Phoenix 4e est passé tout proche de l'exploit contre le PSG 1er dimanche, mais Paris finit par l'emporter 31-34. C'est la 12e victoire en 12 rencontres pour les Franciliens et la 2e défaite pour les Toulousains.
Un week-end morose avec un autre résultat décevant, cette fois en top 14.
Le Stade Toulousain a buté 27-12 contre le Stade Français dimanche. Les Rouges et Noirs n'ont pas battu les Parisiennes depuis 3 ans. En rugby national, la rencontre opposant Suresnes à Tarbes pour le compte de la 12e journée de National a été reportée à dimanche 15h au lieu du samedi 18h à cause des grèves SNCF. Le Stadeau a été battu 21 à 16.
Coralie Fournil est l'étoile montante du tennis de table handisport.
Trisomique de naissance, cette jeune femme s'est imposée dans ce sport en moins de 2 ans. Elle a remporté plusieurs tournois haut la main avant de devenir championne de France en un temps record. Prochaine étape, tenter d'intégrer l'équipe de France. Elle va bientôt intégrer le Krebs pour jouer au plus haut niveau. Coralie a été championne de France catégorie jeune en avril 2023 et troisième en catégorie adulte.
Merci beaucoup Corinne Saint-Félix, on vous retrouve donc la semaine prochaine. Tout de suite, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et puisqu'il revient parmi les revenants, Erwan, on vous laisse commencer, on vous écoute.
Merci pour cet honneur. Alors déjà, je vais commencer par mon top et passer sur un sport, ou plutôt on va dire peut-être une activité pour éviter d'en effrayer certains, mais je vais parler de billard, plus précisément de snooker, du coup, qui est la discipline phare un peu du,
quoi
du billard.
C'est pas
quelque chose d'assez particulier pour ceux qui n'ont jamais vu, mais il faut savoir qu'il y a un maître dans cette discipline, il s'appelle Ronnie O'Sullivan, et il vient de gagner à son 8e titre de champion du Royaume-Uni, qui est en gros le titre le plus important de la discipline après celui de champion du monde. Et voilà, c'est tout simplement le, comme je dis, le maître dans son domaine. C'est la personne la plus titrée dans quasiment chaque grande compétition de billard. Et actuellement, ça vient de devenir aussi la personne la plus âgée à n'avoir jamais rencontré à n'avoir jamais remporté un trophée. Alors voilà, c'est aussi devenu la personne la plus jeune à n'avoir jamais remporté un trophée. Désormais, il a le record des deux côtés de la frise.
Eh ben dites donc, ça, vous faites un retour triomphant. Vous revenez pour nous parler de billard. C'est très étonnant quand même. Une passion pour vous, Erwan, le billard peut-être ?
Ah ben oui, j'aime beaucoup jouer au billard. Et puis, je joue pas au snooker parce que c'est trop compliqué pour moi. Mais par contre, oui, effectivement, j'aime bien. J'aime bien regarder surtout sur Eurosport.
On espère qu'un jour vous puissiez nous faire profiter d'une chronique sur le billard, sur le snooker peut-être.
Ah ben pourquoi pas,
voilà.
Très, très intéressant.
Le défi est lancé, je vous laisse poursuivre, excusez-moi.
Et ben pour le flop, alors ça va aller un peu vite parce qu'il y en a déjà parlé pendant le Flash Info, mais voilà, ben effectivement c'est les résultats de Toulouse et particulièrement à domicile. À domicile en Ligue 1 c'est vraiment faible et là encore une fois donc un nul arraché à la dernière minute par les Lorientais. Et bah Toulouse, ils n'y arrivent pas à domicile, alors que normalement, on devrait dire que ça devrait être une de leurs forces comparé à, entre guillemets, l'ancien TFC, parce qu'on a l'impression que le public est retrouvé, même si là, contre Lorient, le stade n'est pas forcément extrêmement rempli. Mais voilà, on a l'impression que Toulouse n'arrive pas à gagner contre des équipes qui doivent être de son niveau, et surtout contre des candidats sérieux au maintien. Et ça fait vraiment peur, notamment quand on voit que Toulouse s'est fait rattraper par Clermont et Lorient en deuxième partie, voire même en toute fin de match. Bah, c'est très inquiétant pour la suite et ça fait penser à un maintien difficile.
Déjà, Toulouse est à 3 points du premier relégable de l'avant-dernier. Donc oui, c'est affaire à suivre effectivement tout au long de cette saison. Corentin, votre top et votre flop. Merci beaucoup Erwan.
Avec plaisir.
Alors du coup, pour mon top, on va parler top 14. De toute façon, top flop, ce sera autour du rugby du top 14. Donc pour parler d'abord de l'ASM ce week-end, moi j'ai eu la chance de me rendre au stade Marcel Michelin pour la deuxième fois, afin d'assister au match entre Clermont et le Racing dans une nuit glaciale, moins 5 degrés. Il fallait pas oublier les gants, le bonnet, tout ça dans les tribunes. Heureusement que sur le terrain, l'ambiance était un peu plus chaude. En témoignent les nombreux accrochages qu'il y a pu avoir entre Jonard et Racingmen. Alors j'ai mis ce match en top, surtout pour le résultat des Jaunards qui se relancent, mais aussi pour l'ambiance, puisqu'on a souvent parlé de l'ambiance d'Ernest Vallon dans cette émission. Je vous le confirme, le public clermontois est vraiment plus chaud que ce qu'on peut trouver à Toulouse en ce moment.
Malgré les moins 5. Et
malgré les moins 5, vraiment, moi j'avais peur, je me suis dit les gens vont être amorphes en tribune, et finalement, on va dire que le public clermontois, dès les premières secondes à l'entrée des joueurs, voilà, bon, ils avaient éteint ce qu'on pouvait déjà voir, nous, sur le stade Ernest Vallon, ce qui est, je trouve, très dommage pour une équipe comme Toulouse. Mais surtout, ça m'a fait réaliser qu'il manque un vrai groupe de supporters au stade toulousain pour pouvoir lancer des chants, au contraire de la Yellow Army à Clermont qui fait beaucoup de bruit. Donc voilà, félicitations aux Clermontois qui se relancent face au Racing qui était second en top 14. Et donc, mon flop, ce sera pour le stade toulousain qui ne sait toujours pas s'exporter comme il faut cette saison. Donc avec ce classique qui a été perdu, qui se jouait hier soir face au Stade français, et on peut dire que les rouges et noirs, avec leurs internationaux pardon, et un banc qui ferait pâlir les Avengers, n'ont pas réussi à trouver la clé face à une défense de fer proposée par les Parisiens. Pire, dans la production, ce sont les Parisiens qui ont réussi les plus beaux lancements avec de beaux essais en première main, notamment en première mi-temps. À croire que la recette de grand-mère, jeu de main, jeu de Toulousain, a perdu un petit peu de sa superbe. Bon, pour le moment, je vais pas trop m'alarmer, même si on peut dire, pour faire écho à l'homme qui a mis un doublé hier soir, que les Toulousains sont mal barrés.
Bah dites donc, oui c'est vrai que là on s'alarme un petit peu des deux côtés, du côté du Stade Toulousain qui est sixième et du TFC qui est premier non barragiste.
Coraline, surtout le TFC qui est dans des, pardon, je vous coupe, qui est dans des oui. des affaires extra sportives avec le groupe qui aurait lâché le coach, etc.
Il paraît que oui, dans le vestiaire l'ambiance c'est pas au plus haut et puis que tout le monde a lâché le coach, le président. Donc ça sent la démission. Non, ça sent le limogeage de Carlos Nouvel dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Coraline, si elle est toujours en vie pour les trois prochaines minutes, est-ce que vous pouvez nous donner votre top et votre flop ?
Oh, 2 minutes, ça devrait suffire. Mon top, ce sera pour l'épreuve de snowboard cross par équipe. Et ça y est, l'hiver est lancé, en effet. Vous le disiez tout à l'heure, à l'instant là. Clairement, il faisait moins 5. Et ben, la neige est tombée à gros flocons dans les Alpes. Et pour notre bonheur, les sports d'hiver sont de retour. Ce week-end avait lieu en France, aux deux Alpes, très exactement, les épreuves de snowboard cross, avec notamment l'épreuve par équipe. Les deux Français, Chloé Trespech et Loan Bozzolo, se sont magnifiquement illustrés durant toute la compétition. Ils n'ont pas cependant pu s'imposer et terminent à la deuxième place derrière la Grande-Bretagne. La Britannique Charlotte Banks, partie dernière avec 2 secondes de retard, réussit à rattraper la tête de la course et à s'imposer devant la Française après une chute de l'Australienne et de l'Américaine. Les États-Unis complètent le podium. Chloé Trespech d'ailleurs qui s'est imposée en solo devant la championne olympique Michaela Mojoli.
Vous êtes toujours très porté sur les sports d'hiver.
J'adore les sports d'hiver.
Ah oui.
Ah ouais. D'accord. Mais non, je
trouve ça.
Ouais. Le biathlon, le biathlon, le ski alpin, le snowboard, j'aime bien. Ouais.
Ben c'est bien, on apprend à vous connaître au fur et à mesure de ces émissions. Merci beaucoup.
En effet, oui, la semaine dernière, mon top était pour le biathlon, où les Français ont vraiment performé.
Et voilà, c'est pour ça qu'on s'attendait à ça, mais non. Et vous avez surpris aujourd'hui.
Exactement. Et mon flop, ce sera pour la défaite des U17 en équipe de France de football. Alors, je regarde très rarement le foot, mais bon, à chaque fois, faut qu'ils perdent. Alors, comme un air de déjà-vu en Coupe du Monde ces temps-ci.
Aïe, aïe, aïe.
18 décembre 2022, défaite en finale contre l'Argentine des hommes au tir au but. 12 août 2023, défaite en quart de finale contre l'Australie des femmes au tir au but. 2 décembre 2023, défaite en finale contre l'Allemagne des moins de 17 ans, Jonathan, au
tir au but.
Exactement.
Et parce que moi j'ai regardé le match.
Après une mi-temps où les Français ont été en difficulté dans les duels et un retour au vestiaire en étant mené 1-0, on a pu voir un visage totalement différent des Bleus dès la 50e. Et on a voulu y croire, 2-2 à la fin du temps réglementaire, pas de prolongation, directement une séance de tir au but, sauf que malheureusement, comme évoqué précédemment, les tirs au but et les Français, c'est pas ça. Alors monsieur, je vous pose une question, est-ce que c'est de la malchance ou est-ce que on a un problème avec les tirs au but?
Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est la loterie et qu'on s'entraîne pas forcément au tir au but. Une vraie question intéressante.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il me semble que dans les instances françaises, il y a effectivement on s'entraîne pas au tir au but, comme dit Jonathan. Notamment Didier Deschamps ne fait jamais entraîner ses joueurs au tir au but parce qu'il estime que ça arrive trop peu rarement et que même s'entraîner au tir au but alors que il y a ni la pression de du match ni de l'événement, ça sert à rien. Après voilà, c'est une école qui se défend ou pas, mais
je sais pas si pour ceux qui ont fait du sport en club, le tir au but à la fin de l'entraînement avec celui qui rate se met dos au but et tout le monde lui tire dessus, ça généralement ça motive. Si vous en voulez,
là quand même, si vous en proposez,
si vous en voulez dans l'enjeu, moi je peux vous dire que vous prendre 15 ballons dans le dos ou dans la tête ou ailleurs parce que vous avez raté le vôtre, je peux vous dire que ça motive à pas le rater quand même.
On peut bien y croire. On
surtout
bien y
quand
croire.
Il fait moins 5 degrés comme chez Corentin.
Là, après le ballon, si vous le prenez au bon endroit, le ballon en plus il laisse une marque.
Sur la cuisse.
On se tirait pas dessus. Celui qui ratait, il devait ranger le matériel. Donc c'était
les chasubles. Il devait laver les chasubles.
Ouais, avec l'odeur.
L'odeur de la mauvaise odeur, on va pas se le cacher. Depuis toi, des fameux chasubles qu'on apprécie tant. Merci beaucoup. Écoutez, c'était un très beau tour de table. Je sais pas si vous avez remarqué en ce moment autour de l'équipe et vous qui nous écoutez, on parle beaucoup de Le sport de combat, on a eu un champion de France, champion du monde junior de boxe française dans la personne de Modibo Diarra. On va aussi parler dans quelques jours du Noble Art. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver François Codine pour nous parler des arts martiaux vietnamiens.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, en face-à-face, nous retrouvons François Codine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous pratiquez un art martial vietnamien, le Viet Vo Dao. Vous dirigez aussi le club de Montaigu-sur-Save depuis plus de 10 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci à vous de m'avoir invité pour présenter ma pratique.
Justement, cette pratique, on va en parler. Comment votre histoire a commencé avec les arts martiaux en général? Parce qu'il me semble que vous n'avez pas pratiqué que cet art martial, vous en avez fait quelques autres aussi. Comment vous en êtes arrivé déjà aux arts martiaux et ensuite au Viet Vo Dao?
Et en fait, les arts martiaux, c'était un peu une histoire de famille. Mon frère faisait du judo et puis, étant petit, tous les gamins passaient par le judo, donc j'y suis passé moi aussi. Et depuis l'âge de 7 ans, j'ai fait du judo au club de Merville et j'ai suivi les pas de mon frère jusqu'à ce que qui m'arrive quelques pépins physiques, et à l'âge de 10 ans, j'ai eu une maladie à la hanche qui m'a cloué sur un fauteuil roulant pendant 3 ans et qui ne m'a plus permis de pouvoir faire de sport ou d'arts martiaux. Et après cette péripétie qui s'est passée, j'ai dû réapprendre à marcher et j'ai réappris à marcher en faisant de la danse de salon, parce que mes parents faisaient de la danse et ça me faisait rêver de pouvoir évoluer en ayant été bloqué par rapport à mon corps sur un fauteuil roulant. Et j'ai réappris à marcher comme ça, et rapidement j'ai eu envie de revenir vers les arts martiaux. Et j'ai recommencé à l'âge de 17 ans.
Ah oui, il y a une sacrée pause.
Il y a une petite pause, en effet, de 7 ans, mais parce que il y avait des antécédents physiques, il y avait un corps à réparer. J'ai repris pendant un stage professionnel avec un collègue qui faisait de la boxe thaïlandaise. Et j'ai repris les arts martiaux comme ça, sans trop le dire à ma mère, parce que ma mère avait peur pour moi et pour mon corps. Un jour, j'avais quand même fortement envie d'utiliser mes pieds, et je cherchais une association, et je suis tombé sur une association qui s'appelait Taekwondo en vietnamien. Et en fait, j'y suis allé un peu sur le bout des pieds, j'ai regardé, et ils étaient tous habillés en noir. Ça avait l'air d'être tous des ninjas, et ils faisaient des mouvements dans le vide, il y avait du combat, il y avait plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma première séance d'arts martiaux vietnamiens.
Ah oui, d'accord. Donc on note sur là, vous êtes allé sur la pointe des pieds. Voilà, la petite référence à vous qui vouliez vous servir de vos jambes à nouveau. Cet art martial vietnamien, le Viet Vo Dao, qu'est-ce que c'est? C'est pieds, poings, coudes, genoux, avec quoi on pratique et comment?
C'est un art martial qui est plutôt complet. Au même titre que le kung-fu ou que le yosekan budo chez les japonais, ou que toutes les pratiques un peu ancestrales, un guerrier, un samouraï, ou c'était quelqu'un de complet, c'est-à-dire que quand il partait à la bataille, il fallait qu'il sache manier des armes, parce que c'est comme si on disait à un soldat aujourd'hui, tu pars sans ton fusil à la guerre. Un soldat à l'époque partait avec son bâton, avec son épée, son sabre, sa hallebarde, suivant finalement son rang et son grade et sa pratique. Mais même les paysans avaient des bâtons, avaient des armes qui ont été détournées pour devenir, qui étaient des outils agraires et qui ont été détournées pour devenir des armes. Et donc, dans la pratique des arts martiaux dit complet, donc, et nous, dans le cadre des arts martiaux vietnamiens, on est une école d'armes. Donc, on travaille au moins 18 armes avec 4 grands principes d'armes. On a des armes courtes, des armes longues, des armes doubles et des armes articulées. Et à ces 4 grands principes, on y rajoute du piqué, du tranchant, donc on peut avoir des sabres, des doubles sabres, des épées, des lances, des hallebardes et un nombre conséquent d'armes.
Donc c'est pas uniquement l'utilisation du corps pour pratiquer ce sport?
Non, parce que dans les écoles encore une fois dites traditionnelles, les armes ont une place vraiment prépondérante. Elles sont le prolongement de la main. Après, il y a de la pratique qui se veut main nue, où on apprend dans le vide des enchaînements avec des kata chez les Japonais. Chez nous, ça s'appelle des quen dans les arts martiaux vietnamiens. Chez les Chinois, ça s'appelle les tao. Chez les Coréens, ça s'appelle les pumse. Et dans toutes les pratiques traditionnelles, on retrouve des enchaînements dans le vide. Ce travail dans le vide, qui est un peu un combat contre soi-même, un travail sur le corps d'ancrage au sol, de force, d'endurance.
De se repérer dans l'espace qui nous entoure.
Exactement, de coordination, qui est très lié avec le travail des armes. Et après, il y a la troisième facette qui est la facette dite du rapport à l'autre. Comment je rentre en contact avec l'autre? Tout ce qui est la partie combat, tout ce qui est la partie self-défense, où là, on va pas se limiter à une surface du corps. Ça va être du pied, poing, coude, genou, tête, et où on va apprendre à se débrouiller avec ce corps et à avoir les différentes surfaces de frappe, les différentes manières de frapper. Et donc, tout le rapport à l'autre, comment je rentre en contact, comment je me protège, comment j'apprends à faire mal aussi, et aussi le côté pour que le cercle soit complet, soigner aussi.
On a entendu les pumse, c'est un petit peu comme en référence au taekwondo. Vous nous avez parlé de judo, on voit qu'il y a des armes, ça peut faire référence à l'aïkido. Au final, c'est un art martial qui mélange un petit peu tous ces sports, tous ces arts martiaux qu'on retrouve dans les pays d'Asie.
En fait, ce que vous dites, c'est très juste. Les Japonais ont sectorisé l'art martial. C'est-à-dire que les Japonais, mais il faudrait qu'on fasse un peu d'histoire, on revient à l'ère des samouraïs.
Il était une fois.
il était une fois l'ère des samouraïs, et les samouraïs étaient des guerriers complets, qui savaient à la fois manier le sabre, le bâton, qui savaient frapper avec leurs mains, leurs pieds, mais qui savaient aussi être des lettrés, qui étaient des érudits, des poètes, et qui avaient une vision de l'art qui était globale. Et ils ont comme ça proscrit les arts martiaux, parce que les arts martiaux étaient un moyen d'émancipation. Et pour que les arts martiaux soient plus digestes aussi pour les Occidentaux, ils les ont sectorisés. Chez les Vietnamiens et les Chinois, les pratiques sont indissociables. On ne peut pas faire que de la projection, on ne peut pas faire qu'un amené au sol, que des athémies, que des clés ou quoi. C'est la complétude de l'art martial, en fait.
Très bien. Est-ce que on voit la pratique que ça résume, ça regroupe beaucoup d'arts martiaux. Est-ce que dans l'aspect compétition à l'heure actuelle, ça mélange un petit peu comme le karaté, les parties techniques, les parties combat fictif face à personne, les combats face à quelqu'un. Est-ce qu'en compétition, c'est un petit peu la même organisation?
Alors. Moi, pour vous dire, la compétition a une place toute relative dans l'art martial, parce que moi, j'enseigne depuis 23 ans, j'ai une centaine d'élèves, et le nombre de compétiteurs que j'ai à peu près par année, c'est à peu près 10%. J'ai toujours une dizaine de compétiteurs. Donc, chacun vient faire des arts martiaux pour ce qu'il a envie d'y trouver dedans. Et la compétition reste toute relative.
Mais oui, certains viennent pour faire la compétition, d'autres pour se retrouver.
Dans mon cas, moi, j'ai fait de la compétition parce que j'avais besoin de me sentir vivant. Et j'avais besoin de sentir que j'avais mal, parce que à travers cette douleur, je sentais que mon corps était en vie, en fait. Et j'ai eu besoin de me confronter aux autres pour me confronter à moi-même également. Et donc, pour répondre à votre question, la compétition peut être à la fois technique, donc avec des enchaînements à main nue en armes, en synchronisé à trois ou en combat préparé.
Il y a aussi des combats synchronisés avec les armes.
Voilà.
Ah oui, c'est ça. Ça doit être impressionnant à voir.
Voilà, c'est pas mal. Et après, il y a toute la compétition combat, où là, c'est du pied-point avec de l'amener au sol. Et où il y a la version au chaos et où il y a la version à la touche.
On parle donc de compétition, donc combien y a-t-il de licenciés à peu près en France
Il y a plusieurs fédérations La fédération qui est la plus reconnue, c'est la Fédération française de karaté et discipline associée. Les arts martiaux vietnamiens, comme les arts martiaux du sud-est asiatique ou comme d'autres arts martiaux, sont raccrochés à une fédération qui est délégataire de l'État et qui en fait distribue des vrais titres de champion de France homologués, des diplômes d'État fédéraux pour pouvoir enseigner en toute légalité et des grades homologués d'État aussi. Mais si on prend toutes les fédérations de tous les arts martiaux vietnamiens, ça représente à peu près entre 30 et 35 000 personnes en France.
Ah oui, quand même. Quelqu'un qui vient du judo peut s'essayer à cet art martial, peut-être de l'aïkido, taekwondo ou karaté aussi. Donc on voit que ceux qui pratiquent déjà une discipline, un art martial, pas quelconque, mais à peu près si n'importe lequel, peut venir s'essayer et avoir déjà quelques bases sur certaines disciplines, armes ou à main nue.
En fait, tout le monde peut s'essayer à tout. En fait, les arts martiaux, ce qui est beau avec les arts martiaux, c'est que normalement, à n'importe quel âge de votre vie, vous pouvez commencer et pratiquer. L'idée, c'est d'être dans le mouvement. Après, quand on est plus jeune, le mouvement est plus sportif et plus porté sur la touche, sur, voilà, on a envie de tester des choses. Et quand on va, qu'on prend un peu plus d'âge, justement, c'est la quatrième partie des arts martiaux dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est toute la partie de la respiration, de la gestion de ses émotions, des pratiques qu'on connaît sous le nom de tai chi, de qigong, de bagua.
D'accord, donc on peut commencer à quel âge le Viet Vu Dao à peu près?
Ça dépend. Chez moi, c'est à partir de 5 ans.
Et apparemment, on peut le pratiquer jusqu'à...
Et on peut le pratiquer jusqu'à mon doyen à 80 ans. L'art martial s'adapte encore une fois à la pratique. Et après, il faut que le pratiquant aussi adapte sa manière. Mais il y a encore de belles performances sportives. Du moment où on reste dans le mouvement, justement, le corps est bien fait. Et en fait, c'est quand on s'arrête, et qu'on se dit que c'est plus possible. Que moi, les médecins me prédisaient que je ne pourrais plus faire de sport et que je ne marcherais jamais correctement.
Ah oui.
Bon, à côté de ça, j'ai pu me faire plaisir et continuer à me faire plaisir avec des contraintes physiques, mais j'ai adapté mon art martial à ces contraintes et ça ne m'a pas empêché de performer en compétition.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui hésite à faire un sport ou cet art martial parce que il a des douleurs ou qui a des difficultés psychomotrices? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes qui se disent c'est pas pour moi?
Moi, ce que je peux leur dire, c'est que moi j'enseigne les arts martiaux parce que j'ai envie d'apporter aux autres ce que ça a pu ouvrir dans mon esprit et ce que ça a pu ouvrir dans mon corps. Ça m'a montré que c'était possible de repousser mes limites. Ça a montré que c'était possible de repousser les limites, mais pas que de mon corps, de ma tête aussi, parce que on se retrouve face à soi-même. Et l'importance, c'est justement d'aller chercher toujours un peu plus loin et de se dire tout est possible finalement. C'est une très belle pratique et qui est souvent teintée de mysticisme, parce que moins on en dit, moins on en montre, et plus on peut paraître pour un grand maître. Et
c'est toujours les anciens qui peuvent apporter ces valeurs de respect, d'explication, de découverte à ceux qui commencent.
Alors oui, du partage, mais c'est avant tout ça, c'est de la transmission. C'est de se dire, est-ce que... alors, il faut y mettre après tout ce qu'on peut retrouver dans les sentiments humains. Il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir... Et en fait... Si vous voulez, pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai des élèves qui m'ont largement dépassé, martialement parlant, sportivement parlant, et c'est le but de tout professeur de pouvoir justement porter son élève et l'apporter sur une voie où il fera qu'il se découvrira et qu'il se fera plaisir. L'idée, c'est que quand on a un peu fait du combat et quand on a un peu pratiqué, on sait qu'il y a toujours plus fort que soi et qu'il y a, voilà, il y a, La force et la puissance sont toutes relatives. Par contre, on peut trouver un épanouissement, une connaissance de son corps, une connaissance de ses émotions qui est exceptionnelle à travers le travail avec l'autre, parce que on ne fait pas, les arts martiaux sont un sport individuel où on travaille pour soi-même, mais où on travaille surtout avec des partenaires et à travers le contact qu'on peut avoir, à travers les émotions qu'on peut ressentir. C'est une vraie école de la vie.
C'est exactement ce que j'allais dire. L'école de la vie, on sent à travers vous toutes ces valeurs de ces arts martiaux, repousser ses limites, le respect, l'humilité, être avec les autres, tout ça, la tolérance. On sent beaucoup de belles valeurs à travers ce sport. Merci beaucoup, François Codine. Je le rappelle, vous êtes vous dirigez, vous entraînez maintenant depuis plus de 23 ans et vous pratiquez donc cet art martial vietnamien, le Viet Vo Dao, et vous dirigez donc le club de Montaigu-sur-Save. Pour ceux qui habitent dans les parages et qui veulent peut-être voir, essayer, comment on peut vous retrouver ?
On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a une école qui s'appelle l'école Phong Long Vo Dao. C'est l'école du dragon et du phénix. Et parce que justement, c'est la recherche du juste milieu entre la force et la dureté du dragon et la souplesse et la grâce du phénix. Et c'est trouver justement, comme dans la vie de tous les jours, le juste milieu entre être souple et être dur, pour finir et pour compléter un peu, le Viet Vo Dao est un terme français, en fait. C'est quelque chose qui a été importé avec des gens qui sont venus, en fait. Le Vietnam est une ancienne colonie française, et en fait, ils sont beaucoup de Vietnamiens sont venus pendant la guerre combattre pour la France, et sont restés. Et du coup, les jeunes maîtres qui étaient arrivés en France et qui ont développé les arts martiaux vietnamiens ont appelé ça le Viet Vo Dao. Donc le Dao, c'est la voix, Vo, c'est l'art martial, et Viet, c'est le peuple vietnamien, la voix de l'art martial du peuple vietnamien. Et la devise des arts martiaux vietnamiens, c'est être fort pour être utile, en fait. Et cette utilité à la société, elle est quand même forte.
Eh bien voilà, on retiendra pour terminer ces deux derniers mots, être fort pour être utile. Merci beaucoup François Codine d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Voilà, alors maintenant si vous m'embêtez, vous là qui êtes autour de moi, attention à vous. Sinon je vous emmène au club de François Codine et on va tous se battre
violemment. On va pas broncher.
Non mais ça nous apprend plein de choses, ces arts martiaux vietnamiens, comme on l'a vu, hein, on peut le pratiquer de très jeune jusqu'à très moins jeune. Et puis voilà, ça permet plein de choses, de se recentrer l'esprit, de se recentrer soi-même. Voilà, c'est très intéressant. Et donc, on l'a vu, hein, c'est bien plus que du sport aussi. C'est vraiment un véritable art d'être, art de vivre. Et on remercie une nouvelle fois François Codine d'avoir répondu à ces questions. Dans quelques instants, l'Autriche, les Pays-Bas, bien sûr, avec le téléphone allumé. C'est magnifique. Voilà, comme quoi, hein, c'est du direct. Vous pouvez pas vous tromper. L'Autriche, donc, les Pays-Bas et un barragiste, et aussi la France. Voici le groupe qui attend les Bleus pour l'Euro 2024. L'Euro commence-t-il bien pour les Bleus après ce tirage au sort? On y répondra dans quelques instants. Tout de suite, Céline Dion arrive. Et juste après, on tentera de répondre à cette question. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice, calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out. Fires in my soul, 'cause I need you here. Whoa, whoa. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke.
L'Autriche, les Pays-Bas et un barragiste de l'Euro 2024. Est-ce qu'il commence bien cet Euro pour les Bleus ? Coralie, Nerwan, Corentin, vous allez essayer de répondre à cette question. Et on va en profiter pour interroger, questionner quelqu'un que nous n'avons pas entendu depuis longtemps. Erwan, est-ce que vous pensez que les Bleus vont bien commencer leur Euro face à un groupe qui semble pour l'instant très abordable pour les finalistes de la dernière Coupe du Monde?
Alors, très abordable, je sais pas, parce que franchement, c'était un des, je pense que c'était un des pires tirages qu'on pouvait avoir. Mais du coup, ça m'étonne un peu que vous disiez ça. Mais franchement, c'est un groupe qui paraît assez relevé quand même. L'Autriche, c'est une nation qui vient de mettre 2-0 à l'Allemagne il y a pas longtemps, qui est le pays organisateur. Ça a été une des nations qui a le plus impressionné sur les phases éliminatoires de l'Euro. Les Pays-Bas, c'est une nation historique du football qui est petit à petit en train de se remettre après on va dire une petite décennie de disette. Donc c'est un groupe qui paraît
à qui on a mis 4-0 au dernier match.
De quoi ?
À qui on a mis 4 buts au dernier match ?
Oui, c'est pour ça. Oui, c'est en même temps, ça paraît, on va dire, pas trop facile pour pas qu'on s'endorme, mais ça paraît pas tellement compliqué non plus, sachant qu'en plus il y a un barragiste à l'image du dernier adversaire qu'on peut avoir, qui est un barragiste. Ça... très bien avoir la Pologne que l'Estonie.
Le voilà, Pays de Galles même. C'est dire voilà. À quel point c'est très un groupe très très éclectique.
Ça, le groupe est vraiment étrange, un peu, enfin pas étrange, mais il a un niveau.
Vous voyez qui d'ailleurs en barragiste, vous, la Pologne peut-être ?
De quoi ?
Vous voyez qui vous en barragiste, la Pologne peut-être ?
La Pologne, ça serait le plus logique, oui, au vu des différentes équipes qui se présentent. Après voilà, c'est une équipe qui se repose quand même beaucoup sur. Les quelques joueurs vraiment de classe mondiale qu'ils ont, notamment Lewandowski et Chesney, et qui a pas vraiment de on va dire une équipe particulièrement soudée, alors que par exemple le Pays de Galles est une équipe qui a perdu ses individualités mais qui a gardé un collectif qui est très 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 uni et qui marche bien ensemble, donc à voir. En tout cas voilà, moi je vois plutôt ces deux équipes, si jamais j'en vois une, se qualifier. Et puis de manière générale, bon, l'Euro, on sait que la plupart des poules, les trois premiers se qualifient, parce qu'il y a la notion de meilleur troisième.
Oui, demain, ouais, effectivement, oui. Équipes,
sur les 8 poules. Donc voilà, il y a rarement de grandes craintes autour. Même au dernier Euro, quand on avait la Hongrie, le Portugal et l'Allemagne dans notre groupe. Il n'y avait rien de très inquiétant et au final c'est contre la Suisse.
Oui, c'est pour ça que le groupe de ce groupe D, ce groupe de la France, semble simple. Pour rappel, le groupe de l'Allemagne, le groupe A, comporte donc l'Allemagne, la Hongrie, l'Écosse et la Suisse qui nous a éliminés au dernier Euro. Le groupe B, l'Espagne, l'Albanie qui réussit très bien avec un ancien entraîneur de l'OL, la Croatie et l'Italie. Le groupe B, un petit peu le groupe de la mort. Et peut-être à égalité avec le groupe C, avec l'Angleterre, le Danemark, la Slovénie et la Serbie. Le groupe D, bon, le groupe de la France. Le groupe E, la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie, un des groupes qui semble assez abordable et un groupe avec qui la France devrait croiser, devrait croiser d'ailleurs. Et le groupe F, le Portugal, la Turquie, la République tchèque et un barragiste. Donc au final, non, la France s'en sort bien plutôt. Est-ce que vous êtes d'accord autour de la table ? Ah, je vais poser la question que tu
Moi, franchement, je trouve pas tellement. Hein.
Ah bon.
Après, ce que j'ai dit, je vais laisser les autres répondre, mais je trouve que c'est simple de sortir des poules de l'euro, mais on a une des poules les plus compliquées.
Très bien.
Je dirais la poule est dense, mais elle est moins que pour l'euro en 2021. Et là où, à mon avis, l'équipe de France devrait avoir un peu plus de facilité pour sortir des poules et pour arriver aussi avec plus d'énergie dans les phases finales, ce sera notamment à cause des déplacements. L'Euro 2021 avait un système assez bizarre puisque des poules se jouaient. Nous, on a joué beaucoup de matchs en Hongrie. Ensuite, il fallait se déplacer ailleurs. Enfin, voilà, les Bleus.
Oui, c'était les Euros. Alors, c'était à l'époque où l'Euro était un petit peu éclaté dans toute l'Europe. Et on n'avait pas vraiment un Euro dans un seul pays comme il va être le cas en 2024.
C'est ça, sachant que 3 des 4 demi-finalistes de l'Euro ont joué leur phase de poule à domicile. L'Italie, l'Angleterre et l'Espagne avaient leur match de poule à domicile. Et ensuite, les demi et la finale se jouent en Angleterre. Donc, on a vu qu'il y a des équipes qui avaient bénéficié un peu de ce traitement de faveur, d'avoir moins de déplacements, de moins subir le décalage horaire, etc. Je pense que pour les Bleus, cette poule, elle est quand même plus abordable que de jouer l'Allemagne et le Portugal, même dans la forme que ces équipes auraient.
Oui, le groupe de la mort, l'Espagne. Espagne, Albanie, Croatie, Italie. On voit pas qui pourrait finir deuxième ou meilleur troisième dans ce groupe. Hein.
Après, c'est sûr que dans les autres groupes, c'est dense, mais l'Euro, c'est une compétition qui est déjà plus dense que la Coupe du Monde. Et en plus, il y a des repêchages, comme vous le précisiez, sur les troisièmes. Donc, voilà, ce qui fait que dans tous les cas, il y a des adversaires qui sont inquiétants à tous les niveaux, parce que finalement, dans le foot, on peut tomber sur des adversaires qui ont un jeu qui peut nous mettre en difficulté. Maintenant, faut pas oublier qu'on arrive aussi à l'Euro avec une étiquette de favori, avec éventuellement l'Angleterre, mais on a cette étiquette de favori qu'il va falloir assumer, et mieux assumer que ce qu'on a pu faire à l'Euro en 2021, avec là aussi une étiquette de favori, plus un Benzema qui revenait en équipe de France, avec l'équipe qui avait titré le monde entier, où l'Europe nous les envie, en parlant de Griezmann, Mbappé et Benzema. Enfin voilà, je pense qu'il va falloir aussi aborder ce groupe-là avec humilité, bien qu'on soit finaliste de la Coupe du Monde, et qu'on ait des joueurs qui soient exceptionnels, qui marchent sur l'eau en ce moment, notamment Antoine Griezmann.
En espérant que ça dure évidemment pour cet euro. Petite question, un petit peu hors débat, j'ai envie de dire, Erwan, vous, Slovaquie-Danemark, ça vous fait rêver, Erwan, non?
Bah, le Danemark, c'est une assez grosse équipe.
On se met ça un dimanche à 14h, ça vous va, non?
Bon, écoutez, ça me va, moi, c'est vrai que j'aime bien, après, malheureusement, il se trouve qu'au foot, c'est...
Un petit Slovaquie-Roumanie, enfin. Dans le groupe E.
La Roumanie qui joue
pour
très
la sieste
bien,
de la
qualification de l'Euro. mais voilà, on va voir. Après, c'est vrai que Slovaquie, Slovénie et même Serbie, qui sont les équipes qui sont parmi celles qualifiées à l'Euro, sont celles qui ont le moins souvent joué des compétitions internationales. La Serbie, par exemple, c'est la première fois de.
Mais ça fait quand même plaisir de voir des équipes comme ça, quand même.
Ça fait plaisir, et puis c'est grâce au système aussi de la Ligue des Nations qui permet de faire en sorte que des équipes se retrouvent souvent, même si pour nous, grosses nations, ça nous embête un peu hein, de devoir faire la Ligue des Nations. Pour les petites, ça leur permet de leur donner un cadre où ils peuvent se rencontrer plus facilement. Et quand on a vu qu'il y avait eu la Macédoine du Nord qui s'était qualifiée au dernier
contre
Euro,
l'Italie,
et que là, il y a peut-être l'Estonie qui pourrait se qualifier.
Effectivement et tomber dans le groupe des Bleus.
L'Estonie, mais peut-être dans le groupe des Bleus, oui.
Voilà. Coraline, vous qui regardez alors un petit peu moins souvent le foot que ces messieurs à l'autre bout du fil, pour vous, Autriche, Pays-Bas et potentiellement Pologne ou Pays de Galles, ça vous fait pas plus que ça, ça vous fait pas peur?
Pas particulièrement, ça m'aurait fait peur si on s'était retrouvé. Alors c'était pas possible, mais si on s'était retrouvé dans la
poule. On aurait pu
de
avoir
l'Allemagne.
La Croatie, l'Italie, hein.
Oui, mais pas l'Allemagne.
Non, c'était peut-être deux séries en même temps
ouais,
que la France, c'était pas
donc,
possible.
Donc c'était pas possible, mais non, après ça fait pas peur. En effet, après, bah, on est vice-champion du monde quand même, donc on arrive. En tout cas, de cette poule-là, on est les favoris.
Ah ben, Erwan.
Je pense
oui,
quand même.
Oui, mais après, il faut quand même dire qu'on se retrouve pas dans la poule de l'Allemagne, mais l'Allemagne est assez faible depuis quelques années.
Oui,
et l'Autriche, avec qui on est dans la poule, a écrasé l'Allemagne dans le jeu et dans le score. Même ils leur ont mis un 2-0 net sans bavure. Et dans le jeu, ils étaient largement au-dessus quand ils ont joué contre eux récemment.
Donc vous préférez avoir, vous auriez préféré avoir l'Allemagne plutôt que l'Autriche?
Vu que ça se joue en Allemagne, je sais pas, mais en tout cas, intrinsèquement, en imaginant que ce soit sur terrain neutre, l'Autriche est plus forte. Après, effectivement, ça se joue en Allemagne, donc on n'est jamais à l'abri voilà, de
après, il y a d'autres équipes un petit peu épouvantail, hein. L'Albanie qui, face à des grosses nations, voilà, on, pour l'instant, on voit qu'elle réussit bien, cette équipe d'Albanie avec Silvinho, mais on sait pas trop qu'est-ce que ça vaut face à des équipes type. La Suisse nous a éliminés, le Danemark nous a un petit peu embêtés, on s'en souvient en 2018 aussi. Dans le groupe F, la Turquie nous a déjà battus lors de matchs, donc au final, peut-être que, sachant que les Pays-Bas, on les a battus aussi récemment, peut-être que les Bleus peuvent partir sur de bonnes bases pour cet Euro 2024. C'est pas un DVD,
oui,
hein, vous pouvez parler, hein, y a pas de...
Non, non, mais on a failli se télescoper avec Erwan, c'est pour ça. Ouais. Mais bien sûr qu'il y a moyen de partir sur de bonnes bases. Après, c'est, je pense, à partir des phases d'élimination directe, il faudra surtout éviter les prolongations et surtout les tirs au but. Je pense que ça, mentalement, ça va aussi peser sur le groupe, de devoir peut-être passer par les tirs au but, surtout si c'est pas retravaillé, s'il n'y a pas de préparation derrière.
Est-ce qu'on travaille les tirs au but ou pas?
Moi, je trouve ça
envie de dire oui quand même.
Il est chiant de dire que pas la peine de travailler les tirs au but parce qu'on peut jamais se mettre dans les conditions de tirs au but qui est pas aberrante. Après, il faut quand même noter que avant, avec tout le respect que j'ai pour le grand joueur qui est Hugo Lloris, c'était quelqu'un dont la principale faiblesse avec son jeu au pied et même devant son jeu au pied, c'était sa capacité à arrêter les pénaux et même de manière générale les coups de pied arrêtés. Il avait un vrai problème avec ça et il est d'ailleurs je sais pas s'il avait déjà arrêté un penalty avec l'équipe de France. Alors pourtant on parle du joueur le plus capé, il en a arrêté un avec l'équipe de France, et pourtant c'est le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection. Donc voilà, ça avec MacMignan ça peut peut-être mieux aller.
Est-ce que justement c'est pas une erreur de Didier Deschamps sur la dernière Coupe du Monde, sur la finale, de ne pas avoir changé Hugo Lloris, sachant ses faiblesses justement au tir au but, quand on voit qu'on va y aller? C'est vraiment du direct, hein, cette émission.
J'ai pas coupé mon téléphone, excusez-moi, je reçois une notification comme ça.
Mais est-ce que justement c'était pas une erreur et de ne pas l'avoir changé à la fin de la prolongation, quoi?
Le problème c'est que si Lloris avait été un joueur lambda et qu'il avait pas le brassard,
il était capitaine.
On pourrait dire que c'est une erreur. Mais le problème, c'est que là, on parle du capitaine de l'équipe de France, du joueur le plus capé. Le sortir à ce moment-là de la finale, et on ne sait jamais, surtout que Maignan n'était même pas dans les remplaçants. Donc, ça veut dire le sortir pour un joueur qui, potentiellement, sur les pénaltys, n'est pas forcément plus habile, c'était pas forcément une bonne chose à faire. Donc, si on avait fait sortir Lloris, le capitaine emblématique de cette équipe, un des joueurs, des lieutenants de Didier Deschamps, un homme du vestiaire, pour son dernier match, et qu'en plus de ça, on perd la finale, ça aurait fait, je pense, beaucoup plus gros scandale, alors que là, on sait que Lloris n'est pas spécialement bon sur les pénaltys. Après, Martinez a fait une très bonne séance de tir au but, parce que aussi, il y a des préparateurs mentaux qui l'ont analysé. Il a eu des attitudes, il est rentré dans la tête des joueurs. À demander à l'arbitre de vérifier si le ballon était bien placé sur le point, donc là on perturbe la routine du joueur. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui se travaillent, et le vice, c'est peut-être ce qui manque à Lloris, qui était un joueur très lisse, très agréable sur le terrain. C'est pas un joueur qui va forcément aller danser devant son adversaire pour le perturber. C'est peut-être ce qui lui a manqué. Maintenant, voilà, il a fait un très grand mondial, pas une bonne séance de tir au but. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour la France. Mais pour moi, les tirs au but, il faut les travailler. Moi, je repense, quand on parle de tirs au but, à chaque fois, à la séance de pénalty de Chelsea sur leur finale de Ligue des Champions où ils gagnent. Sech, sur tous les pénaltys, part du bon côté. C'est pas un hasard, c'est parce que le mec a travaillé.
Et du coup, pour en revenir à ce débat, est-ce que l'Euro commence-t-il bien pour les Bleus? Comment vous le sentez? Est-ce qu'on va demander, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, où vous voyez la France?
Demi-finale.
Non, dans les groupes. Merci Coraline de participer à l'émission. Non, mais vous pouvez couper le micro, hein, c'est pas grave. Hein, c'est... Dans les groupes, on ne sait pas encore qui vont tomber après, donc voilà. Dans le groupe. Premier, deuxième, troisième.
Premier.
Erwan.
Oui, moi j'imagine bien premier aussi.
Corentin.
Ouais, premier aussi, avec deux victoires et un match nul. Sûrement le troisième match où on va faire tourner. On va faire un petit un partout, un bon vieux 0-0.
Comme le Danemark en 2018 en Russie.
Exactement, voilà, c'est le match un peu
un
qui
bon permet de faire 0-0 tourner. Un bon vieux 0-0 qui contente tout le monde, sauf les gens qui viennent voir le match et qui payent les billets.
Voilà, c'est ça.
C'est bien, merci beaucoup. Donc au final, on peut dire que l'Euro va bien commencer pour les Bleus avec ce tirage au sort. Est-ce que l'animal totem de Didier Deschamps a fonctionné?
C'est quel est cet animal ou juste
le la chance.
Oui, voilà, bien sûr. Non, oui, ça a bien marché. Puis, comme on dit, c'est vrai que l'Euro, c'est une compétition où c'est assez facile de sortir des poules. Donc, c'est une compétition qu'on, malheureusement, j'ai presque envie de dire, à cause des réformes qu'il y avait eu à partir de 2016, avec 24 équipes, on commence à la prendre au sérieux qu'à partir des matchs à élimination directe. Là, espérons que voilà, les poules soient un peu plus intéressantes que lors des précédentes éditions.
Oui, parce qu'on n'a pas gagné l'Euro depuis. Attention, celui qui 2000. Donne la bonne réponse, il a une pastille.
2000. 2000.
Merci beaucoup.
C'est Gaby Tord qui marque.
Voilà, félicitations Erwan pour ce point qui ne vous servira à rien. Merci pour avoir donc participé. Tout de suite, on va retrouver la chronique que nous a faite Anne-Françoise Marie. On va parler des JO tout de suite.
Esprit Sport, la chronique.
Et tout de suite, avec Anne-Françoise Marie, on voit que le cheval, c'est trop génial.
Eh oui, Jonathan, aujourd'hui, on va parler canasson. Alors, pas seulement parce que je m'intéresse à l'équitation et au retour de Pénélope le Prévost avec Texas, mais surtout parce qu'il m'arrive régulièrement de monter. Plus précisément, de monter sur mes grands chevaux. Ouais, parce que moi, j'ai l'indignation facile, en fait. Bon, vous en avez peut-être rendu compte dans mes chroniques en rapport avec l'écologie. Et cette semaine, j'ai eu bien envie de m'indigner. Alors, pas spécialement à propos d'écologie, mais à propos des JO de Paris 2024. Bon, vous savez, les JO vont attirer beaucoup de touristes à Paris pour l'été prochain. Ces touristes, ils viennent voir des épreuves. Donc, on a des touristes plutôt fortunés en général, et ces touristes-là, il va falloir les loger, il va falloir les déplacer, il va falloir les nourrir. Bref, il va falloir vivre à Paris pendant le temps des Jeux avec 15 millions de personnes en plus. Donc, en fait, c'est le double de la population du Grand Paris à l'année. Bon, évidemment, ils seront pas là tous en même temps pendant toute la durée des Jeux, mais quand même, 15 millions de personnes, il faut les mettre quelque part. Donc quand on connaît un petit peu le marché immobilier parisien, on se doute que ça ne va pas être très facile. Enfin, pas très facile, ça dépend pour qui. Les locations de logements se négocient déjà à plusieurs milliers d'euros par jour pendant les Jeux. Nombreux donc sont les locataires ou les sous-locataires qui sont invités à laisser leur logement pendant le temps des Jeux pour accueillir les touristes. Mais ce n'est pas tout. L'objectif de l'organisation des Jeux, c'est de transporter 100% des visiteurs en transport en commun. Alors même que de l'aveu de Anne Hidalgo, il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts. Rien de très rassurant donc. On attend donc 1 million de visiteurs, de voyageurs supplémentaires dans le métro, et le nombre de rames ne devrait être augmenté que de 20% par rapport à ce qui est normal au mois d'août. Évidemment, des bus devraient être rajoutés en circulant sur ce qu'on appelle les voies olympiques. Donc ça, c'est des voies qui vont être privatisées pour les bus. Et donc, ça va donner probablement des difficultés certaines pour les automobilistes. Selon France Bleu Paris, 185 km de voies en région parisienne vont être interdits aux voitures, réservées exclusivement aux personnes accréditées, transports en commun et secours. Et ça, c'est du 1er juillet au 15 septembre 2024, parce qu'il faut aussi compter les Jeux paralympiques. Les conducteurs devront donc faire également avec les périmètres de sécurité. Donc ça a été annoncé cette semaine. Donc en fait, on a un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Et donc dans ces zones-là, les véhicules pourraient être interdits de 6h30 à minuit. Alors imaginez, vrai plaisir pour tous les habitants.
Vous êtes en train de nous décrire l'enfer sur Terre.
Ah bah c'est Paris, enfin en même temps, voilà. Mais attendez, ça n'a pas fini, parce qu'en fait, on peut parler des prix aussi un petit peu. Le ticket de métro, il va doubler pendant l'été 2024. Les organisateurs de Paris 2024 avaient pourtant promis, et c'est marqué dans leur dossier, la gratuité des transports pour les détenteurs de billets, comme c'était le cas à Londres, par exemple, en 2012. Mais pour des questions budgétaires, l'augmentation, notamment l'augmentation de l'offre, et en particulier le fait d'empêcher les conducteurs de métro de prendre leurs vacances en été, il a fallu donc augmenter le prix du ticket.
Est-ce voilà. qu'on peut dire merci à Valérie Pécresse qui a pris cette initiative et qui avait averti quand même le gouvernement avant?
En fait, on voit très bien que le budget, il tient pas. Donc finalement, cette augmentation... Le problème, en fait, moi je trouve que le problème surtout, c'est que ça va aussi toucher les Parisiens, qui sont pas spécialement visiteurs des Jeux.
Vous et moi qui allons le regarder à la télé, ça va.
Non mais nous ça va. Et puis franchement, ceux qui viennent voir les billets, parce qu'entre le prix des locations, le transport, les billets d'accès aux épreuves, on est à plusieurs centaines d'euros pour les billets. Il y a 1000 euros à peu près, je crois, pour la cérémonie d'ouverture et de clôture. C'est pas forcément les visiteurs des Jeux qui vont être pénalisés. Par contre, les Parisiens qui travaillent et qui voient leur ticket à 4 euros, ça risque de leur faire un petit peu mal. Bon. Moi, je me serais bien indignée encore plus, par exemple devant l'annonce de la destruction des jardins ouvriers à Aubervilliers pour installer la terrasse de la piscine, de la nouvelle piscine, ou encore devant les étudiants normalement logés au Crous qu'on demande de partir dès fin juin parce qu'en fait il faudrait loger les bénévoles des JO. Mais en fait, ces deux projets sur lesquels je comptais m'indigner fortement, ils ont été annulés par décision du tribunal.
Tapez du poing sur la table, Anne-Françoise.
Non, parce que ça fait du bruit dans le micro, Jonathan. quand même, l'immobilier va subir une hausse conséquente et durable des prix à Paris. En fait, si on se réfère aux autres JO, comme par exemple Londres, Tokyo ou Athènes, les prix de l'immobilier, c'est 20% dans plusieurs années après les JO. On peut donc se poser la question de la conciliation de ces grands événements et de la vie des habitants. Car il n'est pas certain que les revenus générés par, les JO 2024 ruissellent sur tous les Parisiens. Et encore moins sur les habitants de l'Île-de-France. Bon voilà, moi je me retourne à l'écurie, sur mes grands chevaux, sans oublier de vous rappeler que les épreuves d'équitation, où nous avons hâte de voir briller nos cavaliers français, auront lieu sur le site du château de Versailles.
Voilà, on remercie Anne-Françoise Marie pour m'avoir lancé, fait ce lancement qui parlait pas du tout de cheval. Voilà, j'étais un petit peu surpris. Anne-Françoise Marie, évidemment, qu'on retrouvera rapidement dans Esprit Sport pour de nouveaux moments d'aberration. C'est un petit peu notre Martinez, Philippe Martinez du sport. Tout de suite, il est l'heure de pronostiquer un match. Et ça, c'est la petite musique qui signifie que Erwan, vous avez top départ 30 secondes pour nous donner le pronostic entre le Stade Toulousain et Cardiff. Ça se joue à Toulouse ce samedi à 16h15 en Champions Cup. 30 secondes.
Alors, Cardiff, c'est une équipe qui a quand même un niveau assez, on va dire, modeste comparé au Stade Toulousain. Même si le Stade Toulousain n'a pas vraiment brillé ces dernières semaines, donc j'imagine les hommes du Gomola arriver avec un peu d'aigreur pour aller jouer ce match et mettre un score quand même relatif, c'est-à-dire je pense on voit bien un 40 à 15.
Oui, plus 30 donc.
De quoi ?
Plus 30.
Plus 30, oui.
Si jamais vous avez le droit à un argument en plus.
Non, je pense, je pense vraiment que les joueurs du Gomola veulent se remettre dans le bain et ça commence par une bonne entrée en Coupe d'Europe.
Très bien, c'est joliment dit. Corentin, top départ 30 secondes pour le même match.
Alors je serai à peu près à suivre l'avis d'Erwan. Je rajouterai que j'y serai au stade, donc supporters toulousains, faites du bruit s'il vous plaît, mettez-nous une belle ambiance digne des grands matchs de Coupe d'Europe. Et je vois les Toulousains arriver vraiment le couteau entre les dents pour découper des Gallois sur le terrain. Et voilà, j'espère une victoire avec bonus pour les Toulousains qui vont proposer du jeu. Et voilà, retrouver un petit peu la confiance sur ces deux week-ends européens qui les attendent.
Eh bien là aussi en 30 secondes, peut-être qu'on aura le plaisir de vous y voir, Corentin et Coraline, enfin pour terminer.
Mais écoutez, je suis complètement d'accord avec mes deux compères du soir. Je penche vraiment pour une victoire du Stade Toulousain qui va se relever, je l'espère en tout cas, de ce début de top 14 un peu catastrophique, faut l'avouer. Même si le résultat est quand même toujours là, le jeu n'y est pas en tout cas. Donc je penche pour une victoire du Stade Toulousain. Ouais, j'aurais dit 30 points aussi, franchement facile, hein, vraiment.
Eh bien là aussi vous en êtes bien sorti, Coraline. Voilà, c'est déjà l'heure de se quitter, c'est déjà le temps de se quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci Erwan d'être revenu après cette longue période d'absence.
Eh bien écoute, je sens que je vous ai manqué, hein. Je vais essayer d'éviter de partir le plus souvent possible parce que je sens que ça vous chagrine.
Eh bien rassurez-vous.
Des débats foot avec Corentin et moi, c'est pas la même chose. Hein.
La semaine prochaine, un nouvel invité au micro d'Esprit Sport, nous retrouverons Christophe Alves, élu à la mairie de Toulouse en charge du handicap, de l'occupation du domaine public, des centres sociaux et de la vie associative. Il sera avec nous, il nous parlera d'une initiative que peu de villes en France connaissent, la mise en place de l'audiodescription pour des événements sportifs. C'est dans la métropole toulousaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine.